Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Bonjour chers auditeurs et bonjour lointain invité Laurent Dubreuil. Bonjour Laurent.
Bonjour Martine.
Alors je dis Laurent parce qu'un océan nous sépare, mais c'est bien peu parce que beaucoup de choses nous réunissent tout au contraire autour de l'Odyssée et autour de votre livre joliment intitulé « Botaniser l'Odyssée ». Donc bien sûr, ma question, elle va intervenir dans quelques temps lorsque j'aurai pris soin de vous présenter. Ce sera de se demander, mais pourquoi donc vouloir botaniser l'Odyssée ? Donc, ce que l'on peut remarquer toutefois déjà, c'est que l'Iliade et l'Odyssée, ben, on en parle depuis un brave moment, et ils opèrent un grand retour sur la scène médiatique avec tout un tas de livres conçus pour apprendre grâce à l'Odyssée, mais c'était déjà sa vocation puisque vous évoquez, on en parlera beaucoup tout à l'heure, le côté ae de pédagogue qui était celui d'Homère. Alors, Homère, on va dire que c'est une personne, même si beaucoup prétendent que c'en est plusieurs, mais peu nous importe aujourd'hui. Cette Iliade et cette Odyssée qui ont servi de manuel pour apprendre des tonnes de choses dans l'Antiquité, aujourd'hui sont toujours dans l'actualité, donc avec des livres et avec des tas d'épisodes très célèbres, même pour ceux qui n'ont pas lu en entier ces deux épopées, des épisodes jamais oubliés sur les bancs de l'école, auprès des écoliers, des étudiants, qui les lisent en extrait pour certains, en entier pour d'autres, des fans de dessins animés, des fans de BD, parce que j'ai eu l'occasion autour d'Achille au printemps dernier, à l'été dernier, d'en parler beaucoup sur cette antenne. Il y a eu beaucoup d'histoires qui avaient envie de faire ressurgir, par exemple, Achille. Et ici, à Nîmes, au Musée de la Romanité, une exposition temporaire qui est toujours en cours jusqu'au mois de janvier a fait la part merveilleuse à l'Iliade et à son héros qui est Achille. Mais nous avons choisi aujourd'hui donc un autre héros, Ulysse, et son Odyssée, puisque vous vous en souvenez, Odyssée, c'est l'histoire d'Odysseus, c'est l'histoire d'Ulysse. Alors, vous, Laurent, vous êtes professeur d'études romanes, de littérature comparée et en sciences cognitives à l'Université Cornell aux États-Unis. Vous vivez, et ça n'est pas rien, peut-être que tout à l'heure on démarrera notre analyse par cela, vous vivez à Ithaca, il fallait l'inventer, ça, où c'était vraiment un signe du destin, n'est-ce pas?
Oui, Ithaca, ou Ithac, hein, oui. Est d'ailleurs né de la sécession d'un village qui maintenant est très petit au XIXe siècle, mais qui commençait à grandir et qui s'appelait Ulysses. Donc, on est en pleine terre troyenne par ici.
Oui, et c'est l'occasion de rappeler aussi que nos chers amis américains sont imbibés eux aussi, eux qu'on dit privés de racines, eh bien, ils s'en sont créés et il y a énormément de références à l'Antiquité. Aux États-Unis et un petit peu partout, même si j'entends dire ici et là que les universités, petit à petit, et c'est peut-être aussi l'un de vos combats, les universités, petit à petit, au profit de cette culture que nous détestons tous, woke, eh bien, essaient de déraciner cette culture qui est la nôtre. Alors, je pense qu'elle est la vôtre, Laurent, parce qu'on ne peut pas écrire ce livre sans être complètement pétri d'humanité, comme on disait, et complètement nourri de grec, parce que ce livre très érudit, et pourtant, et c'est là le miracle facile à lire pour autant, eh bien, ce livre est pétri de grec. Donc, j'imagine que vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit.
Oui, vous avez raison. Comme ça existe toujours aujourd'hui, hein, les enfants qui tombent dans la mythologie à 7-8 ans, donc moi, ça m'est arrivé. Et c'était vraiment presque une folie douce quand j'avais 8 ou 9 ans. Ce vieux manuel que certains connaissent peut-être encore, le manuel de Comelin, qui est un manuel très faux de mythologie, mais qui était très fascinant pour moi quand j'étais enfant, mythologie grecque et romaine, était devenu pendant un an à peu près ma Bible, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est ce qui m'a entraîné sur la piste du grec. Donc j'ai commencé très jeune, oui, j'ai commencé quand j'ai pu, hein. J'étais à l'école publique à côté de chez moi, mais j'ai commencé à l'âge de 12 ans le grec et finalement j'ai continué toute ma vie à l'étudier. Vous savez ce qu'on dit sur le violon, que il n'est pas très difficile d'apprendre le violon, seulement les 15 à 20 premières années sont difficiles.
Ouais,
Et c'est la même chose pour le grec, comme on sait, pour le grec ancien. Et il s'est trouvé que je ne suis pas devenu un spécialiste de lettres classiques pour plein de raisons qu'on pourrait discuter, mais aussi parce que mon latin était faiblard et acquis sur le tard. Mais je suis resté très, très lié aux choses grecques. Et c'est une grande partie de ce que je fais du côté de la littérature comparée, ici et ailleurs.
Alors, donc, quand vous parliez de votre chère enfance et de vos chères études, vous étiez à ce moment en France.
Oui. J'ai étudié à Lyon et quand j'étais à l'école primaire et jusqu'au lycée. Et puis ensuite, j'ai fait mes études à l'école normale supérieure à
Voilà.
Paris. Voilà. Et
Effectivement.
après, à Bordeaux et à Paris, voilà, dans différentes directions.
Et oui, parce que donc il faut quand même le souligner, vous êtes normalien, universitaire, écrivain. Et donc, après toutes ces années d'études, vous voilà actuellement full professeur d'études romanes, comme je l'ai dit. Je ne vais pas rappeler toute la formulation énoncée tout à l'heure, dans une université de l'État de New York, Ithaque se trouvant aussi dans cet État de New York. Si j'ai bien lu ce qui vous concerne, vous intéressez à beaucoup de choses, au cinéma. Vous avez énormément publié, je ne vais pas ici faire la liste, pourtant je l'ai sous les yeux, de toutes vos publications. La dernière en date, je vais d'abord parler de l'avant-dernière de 2019 qui m'a beaucoup intéressée, La dictature des identités, où justement vous dénoncez cette dictature woke qui s'empare ici aussi chez nous, en France, de pas mal d'universités et qui pourrit la vie de tous ceux qui aiment la vraie culture. Donc votre livre est un combat admirable contre cette culture, si on peut dire, woke. Et puis le dernier en date, paru aux Belles Lettres, celui qui nous amène aujourd'hui à faire connaissance, Botaniser, l'Odyssée. Donc je l'ai dit, c'est un livre court et dense. C'est parce que il y a, si on le regarde de point de vue de l'épaisseur, c'est dans la collection Essai aux Belles Lettres, on se dit ce sera vite avalé. Puis quand on commence à regarder de près et à voir tout l'index au début du livre des plantes de l'Odyssée, on se dit, ouh là là, va falloir s'accrocher. Et puis non, pas du tout. Au fur et à mesure, alors que vous déployez beaucoup de citations, au passage, je signale que moi, j'ai beaucoup aimé le fait que les notes, les références soient à la marge du texte et ne nous obligent pas des va-et-vient insupportables dans d'autres livres. Donc, à coup de démonstrations, de textes, de mots, eh bien, vous nous emmenez sur la piste des plantes dans l'Odyssée. Alors, qu'est-ce qui vous a donné cette idée, même si après, évidemment, le livre tout entier suffit à nous l'expliquer, mais pour nos auditeurs, ou d'où a germé, si j'ose dire, cette idée de botaniser l'Odyssée?
Plusieurs raisons à cela. La première est une raison circonstancielle. Alors, c'est vrai que j'ai publié beaucoup de livres. La plupart des livres que je publie ne sont pas circonstanciels, mais certains le sont. Parfois, il m'arrive quelque chose où je rencontre quelqu'un et j'ai l'idée d'un livre. En l'occurrence, un autre Laurent, puisque les parents qui avaient des enfants dans les années 1970,
Oui.
apparemment, manquait un peu d'imagination. Donc un autre Laurent, qui a à peu près mon âge, s'appelle Laurent de Robert et qui est un artiste, avait depuis longtemps une volonté de refaire un peu à la Victor Bérard, ce philologue voyageur du début du XXe siècle, fin du XIXe siècle, refaire un peu le voyage d'Ulysse en Méditerranée, mais il cherchait un moyen pour lui de le faire avec quelque chose d'autre. Et il a eu cette idée de recueillir les graines in situ des plantes citées dans l'Odyssée. Alors, il est vrai que tout le tournant botanique dans l'art contemporain actuellement est assez fort. Beaucoup de gens travaillent sur les graines. Et Laurent me demande de lui faire une liste pour l'aider comme une sorte de guide de voyage. Et il me dit, je devrais en faire un livre. Et je lui ai répondu tout de suite, écoute, je vais te faire la liste par amitié, mais Regarder un texte littéraire, hein, moi, je suis vraiment très littéraire et philosophe, hein, de formation, même si je fais beaucoup de sciences maintenant, mais regarder un texte littéraire par le côté un peu réalité des plantes, c'est pas exactement mon optique a priori. Donc je vais te faire la liste par amitié, et puis voilà. Et puis il arrive, ce qu'il arrive dans la recherche, quand elle est intéressante, c'est que, établissant cette liste, travaillant sur ces plantes et me demandant si c'est bien un trèfle ou bien un souchet, enfin des questions que d'habitude je ne me pose pas de cette manière, j'ai eu le sentiment que quelque chose d'autre pouvait se jouer dans la lecture de l'Odyssée, qu'on pouvait lire l'Odyssée à hauteur de brins d'herbe et de fleurs des champs,
Oui,
et
justement,
que.
j'allais citer cette phrase très jolie que vous avez composée. Nous lisons l'Odyssée à hauteur de brins d'herbe et de fleurs des champs.
Et qu'on avait donc là un regard qui est un regard tout à fait différent de celui qu'on a d'habitude quand on lit l'Odyssée, qui est quand même qui n'est pas immense, mais qui est quand même un grand cycle. Et donc regarder dans ce tout petit détail les noms des herbes paraissait un décentrement tel que finalement l'aspect un peu étrange prenait du sens. Et puis évidemment, ça n'est pas si surprenant. Dans la mesure où, généralement, quand Ulysse arrive dans un nouveau monde, ou quand d'autres personnages à l'intérieur de l'Odyssée arrivent sur une île ou sur une terre nouvelle, ces différents endroits sont décrits comme des biotopes par le poème,
Oui.
avec en particulier mention des différentes plantes. Alors, même si ces mentions sont relativement schématiques la plupart du temps, elles participent de l'effort d'imagination qu'a l'auditeur, qu'a le lecteur. En contact de l'Odyssée. Et donc, c'est tout à fait logique que ce détail ne soit pas exactement un détail, d'autant plus que l'Odyssée émerge d'une culture à la fois navigatrice et rurale, et que sans doute, nous, urbains, même si moi je suis moins urbain parce que Ithaque, où j'habite, est assez petit, et dans la campagne, nous avons tendance un peu à minimiser ces questions-là. Donc, c'est un ensemble de tous ces rapports qui m'ont amené vers ça et m'ont convaincu à titre personnel que. Je devais passer non, de l'index à un texte, et puis d'un texte qui ne soit pas juste une contribution à un volume collectif, mais un vrai essai qui, comme vous le disiez, essaie d'être dense et accessible en même temps, tout en restant précis.
Oui, alors là, vous avez parfaitement rempli votre mission parce que, comme je l'ai dit et j'insiste, on le lit facilement et ça nous donne l'impression d'être très intelligent, ce qui est formidable. Donc, vous avez effectivement abordé ces plantes et moi qui m'intéresse beaucoup à la cuisine romaine, j'ai souvent eu justement envie d'aller voir ce que c'était que ces anciennes plantes et à quoi elles correspondaient aujourd'hui. Et c'est un petit peu, mais pas que, ce que vous avez fait dans le livre, travaillant d'abord sur l'étymologie, et ça c'est passionnant parce qu'effectivement, si on veut bien réfléchir 2 secondes, hier comme aujourd'hui, le nombre de métaphores qui croisent le domaine botanique avec le domaine intellectuel, c'est faramineux. Et vous avez commencé par le fameux verbe léguéré.
Oui, parce qu'on a une racine indo-européenne. Alors, je dois dire que dans le livre, je joue quand même pas mal sur le terme de racine.
Oui,
Je ne pouvais pas m'en empêcher.
non.
La racine linguistique et la racine de plante. Mais on a une racine indo-européenne qui est commune au latin et au grec et qui nous renvoie du côté de lego, legere. Et les mots. Les deux verbes en latin et en grec se sont spécialisés de manière un peu différente, c'est-à-dire que l'ego en grec renvoie plutôt au fait de parler et en latin plutôt au fait de lire, mais à l'origine, le sens commun à cette racine, c'est une espèce de sélection. Donc on voit bien qu'on peut sélectionner les mots ou en les disant,
Exactement.
sélectionner les mots en les parlant. Et cette sélection est aussi liée à une forme de cueillette.
Voilà, et de croisement après, enfin effectivement, on sent bien que tout ça, c'est parfaitement naturel, si j'ose dire. Pareil pour le mot séminaire, mais il y a tellement d'autres mots que vous déployez dans votre livre, le mot recueil. Et vous développez aussi, en parlant de Médée et de Circé, laquelle Circé est baptisée, renommée Herbi Potens, hein.
Oui.
Les croisements étroits qu'on peut faire entre lire, savoir et la magie.
Oui, et aussi réfléchir et la médecine, puisque même potentiellement, On pourrait avoir une racine commune entre Médée et médecine, même si ce n'est pas tout à fait sûr. Mais on décrit en effet un univers de plantes et végétales qui est directement en rapport avec un univers mental, de lecture, de parole, mais aussi de guérison. Et donc, ce sont toutes les plantes qui sont ici intervenues, pas seulement les plantes aromatiques ou les plantes que l'on comestibles, mais aussi les plantes qui sont des plantes curatives. Et comme de manière générale, un certain nombre de plantes énigmatiques, dans l'Odyssée, il y en a plusieurs,
oui.
Mais un certain nombre de plantes énigmatiques ont parfois été lues comme des vraies plantes ou parfois été lues comme des plantes métaphoriques. C'est-à-dire dès la Grèce ancienne, on a les deux grandes approches, hein, essayer d'aller chercher quelle est la vraie espèce végétale ou dire mais tout ça c'est une métaphore, Plutarque le dit très bien par exemple, et ben, on retrouve assez souvent l'idée que si le texte plein de plantes qu'est l'Odyssée avait un côté végétal, ce serait peut-être un côté végétal qui le mènerait vers la thérapie et donc la parole même est relié à la cueillette, à la lecture d'un côté, et puis de l'autre, à cette idée de guérison ou de bonheur apporté ou recouvré grâce à l'entrée dans la littérature.
Alors, nous allons marquer une petite pause musicale en empruntant, chose que je ne connaissais pas, un spectacle appelé l'Odyssée. Spectacle qui est né en 2015, mais qui continue d'opérer par tournée ici et là, dans toute la France en tout cas, et peut-être même en Europe, en Suisse, etc. Donc nous allons l'écouter, puis après nous parlerons peut-être de ces plantes qui permettent une certaine datation et des trois plantes énigmatiques que vous avez largement exposées dans votre livre. À tout de suite, Laurent. C'est Antiquissimo sur Radio Alliance Plus et notre invité Laurent Dubreuil et nous invite à lire son livre et à botaniser l'Odyssée et à nous rendre compte que dans cette épopée dont nous connaissons tous quelques épisodes, eh bien les plantes tissent quelque chose de vraiment important. Alors vous indiquez, on va passer là très vite parce que l'heure va rapidement nous laisser frustrés si on n'avance pas davantage. Donc, la datation par les plantes, vous indiquez qu'effectivement, dans l'Odyssée, lin, orge, figuier, pommier, vigne, poirier en relatent, sont en rapport avec les débuts agricoles. Mais je voudrais tout de suite qu'on évoque trois plantes énigmatiques et passionnantes, le nempétès, le lotos et le molu, que vous évoquez dans ce livre. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette plante, l'une qui désendeuille Hélène, l'autre qui procure l'oubli, et enfin une autre consommée par Ulysse dans un contre-emploi.
La première chose à dire, c'est que les trois plantes qui sont vraiment énigmatiques, et qui sont énigmatiques depuis l'Antiquité, hein, qui ont provoqué des débats d'identification depuis sans doute aussitôt que l'Odyssée se constitue. Ces plantes énigmatiques sont juste au nombre de trois, c'est-à-dire que la plupart des autres plantes, on peut avoir un doute pour la nomination, mais on les connaît, on les reconnaît. Et ces trois-là sont liées à une activité mémorielle, ce qui est quand même intéressant puisque le tout début de l'Odyssée, hein, nomme la muse et que la muse en question peut être conçue comme la muse mémoire elle-même.
Oui.
Et on a les deux actions, le pharmacon nepenthes, donc le simple, ce que je traduis par simple ou l'herbe qui désendeuille, qui est versé par Hélène lorsque Télémaque visite Hélène et Ménélas lorsqu'ils cherchent son père et que dans le banquet tout le monde est heureux jusqu'à l'évocation d'Ulysse qui est perdu à ce moment-là et tout le monde se met à pleurer. Et donc Hélène dit, mais moi j'ai quelque chose pour vous, je vais mettre dans le vin cette herbe particulière qui m'a été montrée et donnée par les Égyptiens qui, ajoute Hélène, savent tout en matière de plantes curatives. Et donc cette herbe particulière ou cette essence végétale va être mise dans le vin et tout le monde va oublier le malheur. Et on nous dit que ça dure 24 heures. Mais que pendant 24 heures, c'est très fort, hein, puisque même si on voit son père ou sa mère passer par l'épée, on n'en est pas triste. Donc c'est une puissante action.
Ah oui, un remède total contre la déprime.
Mais 24 heures, attention, assorti aussi d'une précaution. Le lotus, c'est la nourriture primordiale d'un des premiers peuples que rencontre Ulysse sur son retour, et qui s'appelle d'ailleurs l'autophage, c'est-à-dire les mangeurs de lotus, donc
oui.
Ils sont définis par leur nourriture elle-même. Et le mot lotos en grec veut dire plein de choses, y compris au niveau végétal. Ça peut vouloir dire trèfle, ça peut vouloir dire lotus, comme on peut s'en douter. Mais là, manifestement, ce terme est réemployé pour autre chose. Les anciens pensaient que les lotophages étaient les habitants natifs de l'île de Djerba.
Oui, en Tunisie.
C'est à peu près la seule identification géographique que personne ne conteste dans l'Antiquité. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est authentique, mais elle est intéressante de ce point de vue-là. Et donc, l'hypothèse anthropologique qui a été développée, en particulier à partir du XVIIIe siècle, car dès la Renaissance, dès le XVIIIe siècle, des gens vont sur les sites pour essayer de reconnaître les plantes énigmatiques
oui.
en question. On parlait de jujube, qui est un fruit très doux.
Oui.
Voilà.
Et alors,
mais
là,
peut-être
donc...
pas aussi doux que ce qui arrive aux compagnons d'Ulysse qui, eux, oublient, donc deuxième effet de mémoire, oublient même qu'ils peuvent rentrer chez eux parce qu'ils trouvent les pains de jujube si excellents qu'ils sont très heureux. Mais Ulysse, lui, veut rentrer, hein, comme chacun sait. Et puis Molu est une plante un peu différente, mais là, qui évite de perdre la mémoire, puisque c'est dans l'épisode où Circé transforme les compagnons d'Ulysse en pourceaux. Hermès propose une plante étrange qui est décrite vraiment de manière presque comme dans un manuel de zoologie, de botanique, pardon, mais de zoologie aussi, pourquoi pas, puisqu'on a parfois pensé que c'était une plante un peu comme la mandragore à aspect humain. Et Ulysse, prenant cette plante, n'oublie pas son but et peut résister au sort qu'essaie de lui jeter la magicienne.
Alors, toutes ces plantes, déjà, vous le disiez, dans l'Antiquité, on en parlait, et il y a de nombreuses références, hein. Pline l'Ancien, évidemment, mais Pline le Jeune aussi, pour la première, le Népenthès. On a Hérodote, bien sûr, que vous citez, et puis Ovide dans les Métamorphoses, qui évoque la troisième de ces plantes énigmatiques et passionnantes. Alors, je ne vais pas, bien sûr, égrener, excusez-moi, ce n'est pas un jeu de mots, je ne vais pas égrener tout ce que vous avez relaté dans les chapitres que nous allons balayer à grands traits, parce que le but, ce n'est pas de redire votre livre, mais de donner envie de le lire, et croyez-moi, il faut le lire. Donc, vous évoquez ensuite les noms des plantes, hein, avec tout un tas de racines poétiques, et vous évoquez ce qui m'a énormément plu aussi, la notion de jardin, et notamment, alors il y a beaucoup de jardins, mais deux jardins sur lesquels vous revenez, le jardin de Nausicaa pour Ulysse, et puis le jardin de Calypso que découvre Hermès. Et vous dites des choses extrêmement étonnantes sur ces jardins et sur cette manière qu'ils ont de croiser la nature, la nature divine, et puis quelque chose qui relève en effet du religieux.
Comme on sait dans l'Odyssée, il arrive que des descriptions soient assez ressemblantes les unes par rapport aux autres dans différents épisodes. Et relisant pour botaniser l'Odyssée, le texte d'Homère, j'ai été frappé par les similarités entre plusieurs jardins, dont ceux que vous citez, et puis le dernier, c'est le jardin de l'enfance, qui est le jardin de Laërte, où Ulysse retrouve son père. Et quand on regarde ces différents moments, on retrouve à peu près les mêmes structures dans la description des jardins, ce qui dès lors les lie entre eux. Moi, mon sentiment, c'est que ces jardins, quand on regarde les données archéologiques, si on pense à l'état de l'agriculture à l'époque où la plupart des archéologues voudraient situer le déroulement de l'Odyssée, je dirais que ces jardins qui nous sont toujours présentés comme des jardins extraordinaires, hein, celui de Calypso, Hermès arrive, Hermès est un dieu et il est bouche bée.
Oui, c'est ça qui est extraordinaire, oui.
Et Ulysse, qui est généralement appelé le divin Ulysse, est lui aussi ébahi. Or, quand on regarde ces jardins, ce sont toujours des jardins assez modestes, même par rapport aux données archéologiques qu'on a. Hein. On dirait des jardins du tout début de l'agriculture, en un sens. C'est-à-dire le moment où on commence à avoir une agriculture qui peut travailler sur les différentes saisons, etc. Et je crois que se joue quelque chose d'assez intentionnel ici, qui n'est pas propre uniquement aux jardins, mais qu'on retrouve tout au long de l'Odyssée. L'Odyssée a ce rapport très particulier au début du monde. Pour moi, l'Odyssée n'est pas un texte du début, dans le sens où ce serait le début d'une civilisation ou un texte complètement archaïque qui n'aurait pas de prédécesseur. Mais l'Odyssée joue énormément sur l'image rêvée du début. Alors, c'est le début de l'enfance, puisqu'on termine dans le jardin de l'enfance à la toute fin de l'Odyssée. Hein. Oui. Mais c'est aussi une sorte de début du monde enchanté où les humains font se lever des plantes au lieu d'être uniquement tributaires des saisons comme un élément extérieur. Et donc, ce jardin, il nous parle aussi beaucoup parce que nos jardins se sont réduits, puisque d'un côté, on a les grandes exploitations agricoles qui ne sont plus tellement jardinées, et de l'autre, de plus petites. Et donc, ces jardins nous évoquent vraiment quelque chose de très personnel,
oui.
Alors même qu'on est dans le grand dire de l'épopée.
Alors, on n'a pas tout dit, mais il faut lire votre livre. Les dernières phrases, pas tout à fait les dernières, mais les dernières concernant les jardins. Ulysse, le sage déraciné, Laërte, le vieux jardinier, Homère, le vif semeur ou cultivateur, et nous donc, les lecteurs glaneurs. Merci Laurent Dubreuil pour ce beau livre.
Merci à vous, Martine.
Au revoir.
Au revoir.